bien vu dans le débat. 30 ans après le génocide Tutsi au Rwanda, comment relever le défi de la mémoire? Entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, 800 000 hommes, femmes et enfants Tutsi et Hutu modérés ont été tués, massacrés. Dimanche, des commémorations ont lieu à Kigali, au Rwanda, en présence du président Paul Kagame, chef du Front patriotique rwandais qui a renversé le régime génocidaire Hutu en juillet 1994 et qui est l'homme fort du pays depuis. Cette cérémonie a lieu en présence de dirigeants et officiels étrangers. Stéphane Séjourné, le chef de la diplomatie française, va représenter la France. La France dont les responsabilités accablantes ont été mises en lumière par le rapport Duclert, issu d'une commission créée par Emmanuel Macron. Rapport qui écarte néanmoins sa complicité dans le génocide. Emmanuel Macron qui reconnaît une responsabilité politique de la France pour être restée aux côtés d'un régime génocidaire. Et pour le chef de l'État, la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés, mais n'en a pas eu la volonté, selon l'Élysée. Emmanuel Macron qui va s'exprimer dimanche dans une vidéo. Rwanda, donc comment relever le défi de la mémoire? On va poser la question à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Laurent Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste Afrique à La Croix, auteur de « Papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda ?»« La France face au génocide ». C'est un livre que vous venez de publier au Seuil. Précédemment, il y a « Rwanda, il parle, témoignage pour l'histoire ». Merci d'être là, Laurent Larcher. Également, La Croix, l'hebdo, hein, puisque vous êtes journaliste à La Croix. Et cette grande enquête que vous avez menée, « Rwanda, l'énigme, Agathe H., accusée de génocide, la femme donc de Juval Habyarimana ». Christophe Boisbouvier est avec nous. Bonsoir Christophe, ancien chef du service Afrique de RFI et toujours journaliste à RFI. Merci d'être là. Et puis nous avons donc en direct de Kigali, au Rwanda, Jeanne Allaire Kayigi-Girwa. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'association Ibuka France, rescapée du génocide donc Tutsi. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose un extrait d'un sujet du mois de juillet 1994.
6 avril, l'avion du président Habyarimana est abattu. Pour certains par des rebelles du FPR, pour d'autres par les durs du régime qui craignaient qu'il se range à l'alternance politique. Une deuxième thèse probable au vu de la rapidité de la riposte de ces extrémistes Hutus qui disent vouloir venger leur président. 40 minutes à peine après l'attentat, le massacre commence, trop systématique pour ne pas avoir été programmé, dira un rapport de l'ONU. Premier visé, la minorité Tutsi, mais aussi les Hutus modérés. Les Occidentaux sont évacués à la hâte. Deux semaines plus tard, on parle déjà de 500 000 morts. Derrière la folie meurtrière, des années de régime dictatorial, régime soutenu par la France. Derrière cette folie, la propagande des autorités qui soutiennent les massacres et par le biais de leur radio, continue d'attiser la haine et la peur. Militairement, le FPR gagne du terrain, c'est la guerre. Parallèlement, les exactions continuent, le monde s'émeut devant les images insoutenables. Le 22 juin, la France lance son opération turquoise. Les témoignages se multiplient.
Elle vient de passer 3 mois dans un trou. Elle a peur de mourir. Et sa mère a été abattue, sa grande sœur aussi. Et c'est elle qui est restée.
Le 1er juillet, l'ONU crée une commission d'enquête sur les actes de génocide. Mais combien de temps faudra-t-il pour juger les coupables? La communauté internationale saura-t-elle et voudra-t-elle s'en donner les moyens?
Jeanne Allaire Kayigi-Girwa, vous êtes une rescapée, vous, du génocide. Vous appartenez à cette association qui travaille pour faire vivre justement la mémoire du génocide. Vous étiez adolescente quand c'est arrivé. Vous avez perdu une partie de votre famille. 30 ans après, qu'est-ce que vous ressentez? De la tristesse, de la colère, de la révolte, de la vengeance, de la haine?
Bonsoir, tout d'abord, et merci beaucoup de me donner la parole. Certainement pas de la vengeance ni de la haine. Ce sont les deux choses que j'ai réussi à écarter de ma vie parce que j'ai décidé d'être du côté des vivants. De la tristesse, oui, de la colère aussi, cela dépend des moments. Mais comme je le disais, une grande envie de vivre, de témoigner et surtout de dire ce qui s'est passé et aussi de parler de la vie des victimes qui ont été fauchées durant ce génocide des Tutsis.
30 ans après, est-ce que vous parvenez à vous expliquer à vous-même ce qui s'est passé ?
Non, et malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais, jamais de réponse à ça. Et cette question, personnellement, je pense que je suis amenée à me la poser toute ma vie, parce qu'il n'y a aucune explication, ni aucun élément, aucun motif qui pouvait amener à cela. Ce qu'ils veulent nous faire croire que c'était de la colère spontanée parce qu'on avait tué leur président. Je ne sais plus qui a dit, comme si ce n'était pas le nôtre également. Il n'y a rien. Et puis, il y a des choses qu'on peut expliquer. Je peux comprendre qu'il y a un peu de colère, si tant est que. Je peux comprendre qu'on puisse se venger, tuer un adulte avec qui vous avez un différend. Mais rien ne peut expliquer ce qu'on a pu faire aux enfants, si, pour nous citer, que ces êtres les plus innocents parmi nous.
Laurent Larcher, vous qui connaissez très bien le sujet, vous avez enquêté. Comment tout a-t-il commencé? Il y avait cette différence, justement, entre Hutu et Tutsi qui apparaissait, en fait, sur les cartes d'identité. C'était une différence qui avait été mise en exergue par les colons allemands et ensuite les colons belges. Mais à quel moment on passe d'une politique de discrimination à un génocide?
À quel moment on passe
Qu'est-ce qui a fait tout basculer?
Mais dès lors que vous, que vous assignez à une identité, cette histoire de carte d'identité est très grave. Parce que quand la notion de Tutsi, enfin motion Tutsi et Hutu apparaît sur la carte d'identité, les Rwandais sont assignés de manière pour l'éternité à une identité raciale qui n'existe pas. Car je vous le rappelle.
Donc c'est vraiment à l'origine. Quand
oui. Je pense que la racine profonde de l'idéologie du génocide repose sur cette distinction terrible entre Hutu et Tutsi. Les colons ont fait d'une différence sociale. Les Hutus étaient les hommes de la terre, les agriculteurs, les Tutsis, les éleveurs. De cette différence sociale, ils en ont fait une différence raciale. Et ils l'ont nommée, identifiée sur les cartes d'identité. De la sorte que le Rwanda s'est retrouvé coincé et ne pouvant évidemment rester pour l'éternité dans sa catégorie. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, lorsque... le régime est devenu Hutu, la révolution sociale, qui a instauré l'idée que les Hutus devaient prendre le pouvoir, s'est associé, les Hutus, en tant qu'ils étaient Hutus, l'idée que les Tutsis étant des étrangers, il fallait s'en débarrasser. Donc d'abord, on les a parqués, on leur a interdit un certain nombre de professions. Peu à peu, ils ont été mis de plus en plus de côté dans la société, chosifiés, exactement comme dans le processus génocidaire nazi, chosifiés, raréfiés jusqu'à l'extermination finale, 94, sachant que de 1959 à 1994, plusieurs pogroms anti-Tutsis ont jalonné l'histoire malheureuse de ce pays.
La responsabilité de la France, Christophe Boisbouvier. Aujourd'hui, on entend dire par l'Élysée que Emmanuel Macron va aller un peu plus loin. Il a déjà reconnu la responsabilité politique de la France en 2021, après ce rapport Duclert, le rapport dans lequel justement le rapport qui dit que la France a une responsabilité très forte, même si elle n'a pas de complicité génocidaire. Il va peut-être dire Emmanuel Macron dimanche lors des commémorations dans une vidéo. Que la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés, mais qu'elle n'en a pas eu la volonté. Ça, c'est l'Élysée qui le dit pour l'instant. S'il dit ça, c'est encore un pas supplémentaire de reconnaissance de la responsabilité française?
Ah oui, parce que jusqu'à présent, le rapport Duclert sur les responsabilités lourdes et accablantes de la France, c'est surtout sur l'avant-génocide. C'est tout ce qui se passe entre la France et le Rwanda, entre 1990 et le 7 avril 1994, la façon dont la France s'aveugle sur les préparatifs du génocide. Là, quand il dit « la France aurait pu arrêter avec ses alliés », je pense, on verra ça dimanche, je pense qu'il s'intéresse aussi à ce qui s'est passé après le 7 avril. Vous avez entre le 10 et le 15 avril, alors que les massacres ont commencé, une grosse expédition militaire franco-belge qui vient à Kigali il y a 500 soldats français, 500 soldats belges pour évacuer les expatriés. Si ces soldats avaient fait bloc avec les 2300 soldats casque bleu de la Minua, ça aurait fait plus de 3000 hommes, des soldats aguerris, des engagés, des légionnaires, etc. Ça aurait fait bloc, ça aurait pu enrayer le début des massacres. Et puis vous avez le 21 avril, le vote de la honte, hein, le vote des Nations Unies, la résolution 912 par laquelle, à l'unanimité, les 15 pays du Conseil de sécurité votent la débandade. On passe de 2300 casques bleus à 270 casques bleus.
Donc ils se retirent.
Ils se retirent. Il ne reste plus que quelques centaines de casques bleus, la débandade, au milieu des massacres.
Jeanne Heller, Kahir Ghiwa, qu'est-ce que vous attendez, vous ? Alors, ce n'est pas Emmanuel Macron hein, qui va aux commémorations dimanche, c'est le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné. Est-ce que vous attendez justement un signe supplémentaire de la part de la France dans la responsabilité ?
Déjà, par cette annonce du président de la République française, qui est un, je suis d'accord avec votre invité, que c'est un cran supérieur. Alors on va voir ce qu'il annonce en substance, mais il est clair que c'est une belle surprise. Mais par contre, la question qu'on peut se poser, on a parlé de la responsabilité politique. Qu'en est-il avec cette déclaration de la responsabilité juridique? Comment à partir du moment où un pays a connaissance d'un génocide en cours, il me semble que il a l'obligation de l'arrêter. Et du coup, vraiment, moi, je suis reconnaissante et je félicite cette annonce du président. Par contre, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'il y a une responsabilité pénale ou juridique, en tout cas, à tirer? Ça, on laisse aux juristes. Et puis, la deuxième chose que j'entends du président français, cela concerne spécifiquement ce qui se passe en France, c'est la concrétisation de la mise en place du monument national qu'il a promis d'ériger sur les rives, sur la Seine à Paris, et nous espérons là aussi qu'il y a une annonce qui va faire, puisque cela s'inscrit dans tout ce qu'il a fait jusqu'ici, et notamment à partir de 2019, puisque nous l'avions rencontré et que nous l'avions fait cette demande qu'il a acceptée, et il y a un processus en cours de création de ce monument national.
Vous attendez une concrétisation. Voilà.
Concrétisation avec une inauguration prévue, selon le calendrier, l'année prochaine.
Sur la justice, justement, Laurent Larcher, intéressant peut-être de rebondir sur ce que vient de dire Jeanne Heller. Est-ce qu'effectivement, il y aura peut-être des conséquences judiciaires plus importantes? Parce que là, vous faites cette enquête sur donc, la femme hein, du président à l'époque, hein, Hutu, qui est donc en France, qui est en banlieue de Paris. Est-ce qu'à un moment, effectivement, il va y avoir, ils seront jugés? C'est quand même ça la question qu'on peut se poser.
En tout cas, on peut l'espérer, mais il y a évidemment les génocidaires, ou du moins ceux qui sont soupçonnés d'être des génocidaires à ce stade en France. Il y a aussi les responsables politiques et militaires de la France. Quand on dit que la France n'a pas eu la volonté d'arrêter le génocide, qui est la France en 1994? Qui est aux affaires? Donc là, on voit qu'on franchit de plus en plus. On s'approche de plus en plus du cœur du réacteur, si je peux dire, et de la vérité nue, à savoir qu'il y a des hommes, et ce sont essentiellement des hommes hein, à l'époque, au pouvoir, qui ont pris des décisions en connaissance de cause, et qu'il va bien falloir un jour qu'ils en rendent compte, pas simplement devant l'histoire, mais sans doute devant la justice.
Christophe, vous êtes d'accord ?
Je crois qu'il faut que... Moi, je retiens dans la phrase d'Emmanuel Macron, je retiens « la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains ».
Et africains.
Je pense que leur ajout avec ses alliés occidentaux et africains, c'est une façon de ne pas simplement cibler les responsables français de l'époque qui sont toujours vivants. Laurent fait allusion à un certain nombre de responsables qui étaient encore, qui sont toujours vivants parmi nous, c'est-à-dire le Premier ministre de l'époque, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, etc. Le conseiller diplomatique aussi de François Mitterrand.
Le secrétaire général de l'Élysée.
Le secrétaire général de l'Élysée, bravo.
Hubert Védrine, pour ne pas le citer.
Je crois que quand Emmanuel Macron dit ça, il dit la démission a été internationale, elle a été collective. Il y a eu un événement marquant, je crois, qui permet de mieux comprendre la débandade du 21 avril. C'est le massacre de 10 casques bleus belges le 7 avril. Ça crée un tel mouvement de panique chez les casques bleus que voilà, tout le monde voulait partir.
Un mot, justement, Jeanne Allaire, Caillie Guérois. Il y a maintenant la population rwandaise, une grande majorité, n'a pas 30 ans. Ils n'ont pas connu ce génocide. Est-ce que pour vous, ça représente un espoir, justement, d'un renouveau, puisqu'aujourd'hui, on parle de Rwandais, on ne parle plus de Hutu ou de Tutsi, justement, au Rwanda. Est-ce que ça permet de vraiment créer une vraie réconciliation, le fait qu'il y ait une nouvelle génération, ou est-ce qu'au contraire, il y a un problème de transmission de cette mémoire de génocide ?
Non, vous avez bien raison, ça crée, c'est une différence notable parce qu'aujourd'hui, en effet, je crois que c'est 70% de la population rwandaise qui a moins de 30 ans. Et quiconque comme nous a vécu cette histoire ne le souhaite personne et les conséquences qui agissent encore sur nous, n'atteignent pas ces générations qui ne l'ont pas souvenu. Donc, ça crée clairement une histoire. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de risque d'oubli ou de non-transmission de cette histoire à la nouvelle génération, puisque si vous venez au Rwanda, vous verrez que la mémoire est très forte et très présente, notamment dans l'espace public. Il y a des mémoriaux partout, que ce soit au niveau national, mais aussi partout, notamment là où il y a eu des massacres, il y a des églises qui sont devenues soit totalement, soit à moitié des mémoriaux parce qu'il y a eu des massacres de masse. Donc la question, elle est transmise. Et puis le génocide est enseigné maintenant aux écoles. Il y a énormément d'émissions, il y a énormément de programmes de transmission à cette jeunesse-là. Aussi bien pour la réconciliation, pour l'unité nationale, mais aussi pour ne pas non plus éluder ce qui s'est passé. Donc oui, ça crée une histoire et c'est tant mieux.
Est-ce que justement vous pensez qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une vraie réconciliation ?
Mais dans tous les cas, c'est toujours dans la question, qu'est-ce qui se passe dans les cœurs de gens ? Le gouvernement a tout fait pour... En jugeant autant que possible les responsables, donc les génocidés, notamment à travers les juridictions Gacaca, en faisant tout pour qu'ils montrent là où ils ont mis les corps et les intérêts en dignité, en créant des conditions minimales pour les rescapés, notamment le fonds d'assistance aux rescapés, à permettre à tout le monde d'aller à l'école, à essayer de faire en sorte que y ait des réductions de peine pour les génocidés qui reconnaissaient leurs responsabilités. Et puis tous les programmes de réconciliation, le fait, vous l'avez souligné, que tout le monde devient rwandais et que toute cette jeunesse ait les mêmes chances d'aller à l'école, d'accéder aux bourses, d'accéder par la suite à l'emploi, tout ça... Et je ne dis pas la sécurité, l'accès aux soins, parce qu'au Rwanda, il y a maintenant une mutuelle pour la plupart des habitants, une mutuelle de la santé. Donc, je pense que le gouvernement a misé sur les conditions sécuritaires, sociales, pour que les gens ils puissent avancer. Maintenant, moi, en tant que rescapée, je sais que c'est encore trop douloureux. Et la question de réconciliation qui va souvent avec le pardon, elle est personnelle, mais ça, elle peut être personnelle dans la sphère privée, dans le cœur, mais dans tous les cas, on essaie tous de participer vers l'avenir du pays, la marche du pays, sans oublier et sans non plus cacher notre douleur et notre peine.
Merci Jeanne Allaire, Kiyegirwa, d'avoir été avec nous en direct de Kigali au Rwanda. Merci Laurent Larcher. Je donc redonne la une, c'est Rwanda, l'énigme Agathe H accusée de génocide, et c'est la une de La Croix, l'Hebdo. Merci d'avoir été là. Merci Christophe Boisvouvier de RFI. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux. Restez avec nous.